Ce n'est pas que juste une question que, bon, au fur et à mesure que les choses arrivent, et puis c'est voilà comme ça que ça arrive, et la fatalité, et puis finalement c'est bien terminé. Hein, c'est pas comme ça que Dieu travaille. C'est une question de. Il a un plan. Hein, même si les hommes sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais Dieu a un plan, et il le réalise au travers de la vie des uns et des autres. Donc, déjà, on a Abraham, qui est devenu Abraham. Je veux aussi voir comment Dieu a préservé cette lignée-là. Donc déjà, Abraham, au départ, son père est un idolâtre. On ne va pas regarder toutes les références, hein, si vous voulez prendre des notes ou bien si vous voulez après. Mais Josué 24, 2 dit que Térakh était idolâtre. Hein, il adorait d'autres dieux. Donc, Abraham est issu d'une telle famille. Hein, donc il devient croyant alors qu'il est né d'une famille d'idolâtres qui avaient d'autres dieux en Chaldée. Donc déjà, hein, c'est pas qu'il soit né dans dans ce contexte. Il y a un moment dans sa vie, il a fait un choix et il a décidé de suivre le Dieu éternel. Donc après, il y a l'appel d'Abraham, hein, donc il va aller habiter en Canaan. Qu'est-ce qu'on sait sur les Canaans? Déjà dans Genèse, donc vous pouvez commencer, on va progresser doucement dans Genèse, mais on va déjà dans Genèse et il nous parle du péché des Amoréens. Les Amoréens, ce sont les habitants de Canaan, parce que Dieu a appelé Abraham, il a dit, écoute, tu quittes ce territoire et tu vas dans un pays là où je te conduirai. Dans ce chapitre 15 et verset 16, il dit, écoute, je ne vais pas te donner ce territoire tout de suite parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble, n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire, ils sont pécheurs. Mais c'est pas au point où je fais une purification totale. Donc et ça il y aura du temps qui passera, hein, donc il y a toute la vie d'Abraham qui est longue. Après il y a la vie d'Isaac, la vie de Jacob, il y a la vie de Joseph, et après il y a 400 ans en Égypte, hein, donc il y a près de 600 ans. Là, hein, donc Dieu est patient, hein, donc c'est sous Josué que finalement il y aura la purification de Canaan. Mais Dieu envoie Abraham, jeune croyant, bon il a 75 ans, mais il est le seul dans son pays, il est unique, et Dieu l'envoie dans un pays où ils sont idolâtres et ils s'entraînent, et les choses vont de mal en pire. Et c'est là qu'il l'envoie. Hein, donc. On a Dieu envoie ces hommes, c'est pas toujours les isoler, mais c'est les préserver dans. Hein. C'est un peu ce qu'on a vu par rapport aux disciples. Hein. Il a dit, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Hein. Et donc déjà, hein, Abraham, il l'envoie dans un endroit, c'est pas le milieu propice pour développer la foi. Et d'un autre côté, c'est un milieu propice pour développer la foi, parce que si c'est la foi n'est pas éprouvée, eh ben, il n'y a pas de croissance. Hein, donc ensuite, ce que nous voyons aussi, c'est que dans ce territoire, il y a Sodome et Gomorre. Hein, et là, vous avez certainement entendu la réputation de Sodome et Gomorre, d'où on tire un mot même de la sodomie aujourd'hui. Donc, Sodome et Gomorre, c'était terrible et Dieu les a jugés, hein, a jugés avec le feu venant du ciel. Et parce qu'il dit au chapitre 18, verset 20, il dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. Donc toutes les injustices, le cri des injustices monte jusqu'à Dieu, et puis il a dit, et le péché est énorme. Hein, c'est toujours les injustices. C'était comme ça, quand Abel a été tué, son sang crie vers moi. Quand les enfants d'Israël sont en Égypte et souffrent sous l'esclavage, Dieu dit, leur cri monte jusqu'à moi. C'est toujours dans le contexte des injustices, et vous pouvez imaginer le bruit qui doit monter au ciel de nos jours, hein, avec toutes les injustices qu'il peut y avoir, et tous les gens qui les subissent. Dieu l'entend et il n'est pas inconscient. Donc, mais c'est dans ce contexte-là, c'est où, dans un territoire pareil, que Dieu va envoyer Abraham pour vivre au milieu d'eux. Hein. Dans Genèse chapitre 18, il nous dit que Dieu a choisi Abraham. Hein, chapitre 18 et verset 19, il dit « Je t'ai choisi ». Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice ainsi et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc il l'envoie dans un endroit où il y a tout sauf pour l'encourager et il dit mais non seulement que lui doit être fidèle mais aussi que ses enfants soient fidèles pour que Dieu puisse accomplir ses promesses. Dans un sens, on est en train de dire, mais là, il y a tout pour que ça ne marche pas, pour que ça ne réussisse pas. Ouais. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver, il y avait tout pour que ça ne marche pas non plus. Hein. Et quand on voit la performance des chrétiens depuis, on peut se demander comment ça va réussir. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Hein, il s'est engagé, il a fait la promesse. Il dit, la question c'est, si Abraham a été choisi. Et parce qu'il a été choisi, ça marche. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est ça que Jésus dit aux disciples. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il dit, je sais, vous allez dans le monde, vous n'êtes pas du monde, vous allez être persécuté, il les a avertis de tout. Mais il a dit, mais c'est dans ce contexte-là, eh bien, qu'on va faire du travail, hein, que Dieu va montrer ses capacités. Si vous arrivez, vous réussissez votre projet dans un milieu hostile, alors tout le monde va faire confiance pour les milieux, dans un milieu qui convient, hein. il n'y a pas de problème. Dieu, on a l'impression, quand vous lisez la Bible, que Dieu ne choisit pas toujours le moyen le plus simple. Hein, je pense souvent à ça, quand, par exemple pour l'évangélisation. S'il avait envoyé des anges pour prêcher l'évangile, au moins ce serait fait. Mais il a préféré prendre des hommes. Hey, il a toutes sortes de problèmes. Hein, moi le premier. Il ne choisit jamais le moyen le plus difficile. Alors vous savez que si vous trouvez que votre vie, vous êtes un peu têtu, eh bien ça, pour lui c'est un défi. Il dit, bon, c'est bien, je suis content que tu sois têtu parce que c'est comme ça que je vais démontrer ma capacité. Il ne choisit pas tous ceux qui sont hein, de la pâte à modeler entre ses mains. Il se sert de pierre et puis il essaie de les modeler. Ça c'est notre Dieu. Hein. C'était comme ça dans l'Ancien Testament et c'est toujours ça encore aujourd'hui. Isaac, j'aurais dû écrire ça avec un C. Isaac, sa naissance, j'ai choisi un chapitre là, Genèse 18, 9 à 15, il y a l'ange qui passe voir Abraham, et puis. À côté de la tente, et Sarah, elle est derrière, de l'autre côté de la toile, et en train d'écouter. Et elle entend, verset 9, il dit, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de sa tente, de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Vous savez, elle l'a dit, mais elle a dit en elle-même, hein, remarquez. Il a dit en elle-même, elle a ri en elle-même. Il n'y avait pas de bruit. Et l'Éternel dit, pourquoi elle rit? Hein, c'est pas qu'il a entendu quelque chose, il sait. Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est Dieu qui pose la question. Il a dit, mais il y a quelque chose qui surprend. Est-ce que, vraiment, est-ce que... Et il ajoute, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Alors, premier abord, on dit, ah, bon, elle n'a pas trop la foi. Hein. Mais si on lit dans Hébreux 11, verset 11, Hébreux 11, verset 11, il dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors dites, Genèse 18, elle rit, elle est incrédule, elle dit, c'est pas possible. Et puis, Hébreux 11, vous savez, mais n'est-ce pas tellement typique de nous tous? Premier abord, ils disent, pas possible. Mais ensuite, le Seigneur, dans notre incrédulité, eh bien, la foi se développe. Hein, c'est un peu comme quand Jésus est descendu de la montagne de Transfiguration, et il y a cet homme qui est venu, et il a dit, ma fille, voilà, se jette dans le feu et tout ça, tu ne peux pas la délivrer. Eh bien, si tu crois, et il répond, viens au secours de... Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et c'est, n'est-ce pas typique, beaucoup d'entre nous, si on était honnête, on dit, c'est vrai, au premier abord, je dis, ah, c'est pas possible. Mais après, je me dis, mais oui, mais Dieu, il peut tout. Et je le crois. Hein, donc, c'était un peu ça. Et Dieu, là, au début, l'incrédulité, il dit, Sarah, tu crois que je ne suis pas capable? Et puis, ça travaille un peu. Et puis, il nous dit, mais avant la fin de l'année, hein, elle a cru. Hein, donc, peut-être ça lui a pris 3 mois, puisque c'est dans un an. Et vous savez que la naissance, c'est 3 mois. C'est 9 mois. Donc, peut-être ça a pris 3 mois pour qu'elle développe la foi pour concevoir au bout d'une année. Hein? Le Seigneur nous donne le temps et il nous accorde. Et combien d'entre nous, eh ben on a manqué de foi quand il a fallu. Mais le Seigneur a dit, vas-y, continue, panique pas, reste là, on va travailler. Et puis la foi se développe et on continue. C'est tellement classique. Hein? On se retrouve très bien avec... Donc voilà les conditions de la naissance d'Isaac. Hein? C'est bon, d'abord une mère qui est stérile et jusqu'à l'âge de 90 ans. Et après, bon, elle a du mal à croire. Mais Isaac naît. Et ensuite, il est né, celui qui a été promis. Et il est à peine adolescent et Dieu dit, maintenant tu vas le sacrifier. Mais après avoir chassé Ismaël, donc il n'en a pas un sur lequel il peut retomber. Il dit, bon, bah, tant pis, je le sacrifie, mais bon, Ismaël... Non, Ismaël, il l'a déjà chassé, il ne va plus revenir. Donc c'est le seul qui reste. Et donc Dieu dit, écoute, tu me donneras ton Isaac, et tu l'offriras en holocauste. Et c'est sérieusement, et Abraham, il l'a pris sérieusement. Il nous dit dans Hébreu, il s'est dit, moi, je sais que Isaac doit vivre, et Dieu me demande de mourir, donc certainement il va le ressusciter, alors que lui, il n'a jamais entendu parler de résurrection. Hein. Il n'y a aucune mention de résurrection avant Abraham. Mais dans Hébreu, il nous dit, il s'imagine, il dit, bon, Dieu débrouille, il se débrouille, à partir des cendres, il va le ramener. Donc il a cru. Et parce qu'il a cru, eh ben, il a pu offrir. Hein. Et ça, c'est les conditions de naissance d'Isaac. Et après... Isaac, il se marie avec Rebecca, vous pouvez lire le chapitre, hein, de comment il a trouvé, eu son épouse, c'était encore Dieu qui lui trouve son épouse, Rebecca. Et Rebecca est stérile. Genèse 25, il y a tout qui va de travers, tout qui va contre ce que Dieu veut réaliser. C'est pour ça que je vous dis que Dieu, il choisit les choses toujours, il rend difficile. Regardez Genèse 25, verset 19. Et lisons, remarquons les détails. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. fille de Bethuel, araméen, de Padan-Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Mais regardez au verset 26. Il a quel âge quand Jacob naît? Il a quel âge? 60. Et quand est-ce qu'il a prié? Ah oui, il a prié, puis tout d'un coup, Non, il restait 20 ans sans réponse. Dites, mais Dieu, pourquoi tu rends la vie compliquée? Il dit, pour t'aider à croire. Dieu, je croyais que quand on venait à toi, après ça arrangeait tout, après les portes s'ouvraient, puis tout le monde tire les rideaux, et c'est comme la mer rouge, là, quand les enfants d'Israël sont passés. Tout s'ouvrait et on passe. Il dit, non, mais c'est pas comme ça. C'est tout le contraire. Après, Dieu fait une promesse à Isaac. Chapitre 26, versets 24 et 25. Et l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai la postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Donc, Dieu fait une promesse. Il a fait la promesse à Abraham, il a dit, tu auras une descendance, on ne pourra pas les compter. Regarde les étoiles du ciel, ce sera comme ça. Et ben, ça n'a pas l'air. Et ça n'a pas l'air pour Isaac non plus. Et Jacob, ce ne sera pas aussi évident non plus. Donc on a vu, par rapport à la naissance de Jacob, si vous êtes dans le chapitre 25, j'ai sauté quelques versets là, mais le verset 24-25 dit les jours où elle devait accoucher, donc Rebecca, la mère de Jacob, parce qu'on savait déjà qu'elle avait des jumeaux, et le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre, le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü, qui veut dire le roux, hein, le rouquin. Et ensuite, il sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Jacob, ça veut dire saisir par le talon, mais c'est aussi le mot qu'on emploie pour dire le malin qui trompe, le trompeur. Hein, dans la langue originale, il y a le jeu de mots là. Et il sera un trompeur. Bon, à l'origine, à la naissance, on lui donnait le nom Jacob parce qu'il tenait le talon de son frère. Mais après, c'est lui qui va tromper son frère aussi. Donc, les conditions de la naissance, déjà, ils sont deux frères, mais complètement identiques. Il n'y a pas plus différent. Et puis, bien sûr, après, le père, il va en choisir un. Il préférera celui qui est rude et qui est celui du dehors. Ésaü, qui fera la chasse et tout ça. Et Jacob, ce sera celui qui reste fils à maman. Hein. Mais alors, et comme Jacob et Ésaü est né le premier, donc il est l'aîné. Jacob, pourtant Dieu avait promis à Rebecca, il a dit c'est Jacob qui sera béni. Mais bon, Jacob, il ne voulait pas attendre. Et Rebecca qui est derrière, vous connaissez peut-être l'histoire. Elle voit que Isaac a l'intention de bénir Ésaü. Donc il dit, Jacob, viens, on va monter un coup. Il monte, il trompe le père et il vole la bénédiction. Bon, vous savez, Dieu voulait que Jacob ait la bénédiction, mais bon, voyant comment les choses ont été, Dieu s'est servi de cela, mais Dieu aurait pu trouver un autre moyen aussi, hein. Jacob, parce qu'il a volé la bénédiction à son frère, maintenant son frère, il est fâché, et il veut le tuer, donc Jacob doit fuir. Jacob fuit chez son oncle, donc le frère chez Laban, le frère de sa mère, hein, son oncle, et en voyage, il a ce rêve. Hein. Il est là, La nuit, il a le rêve, il voit cette échelle qui monte jusqu'au ciel, et Dieu fait une promesse. Mais regarde, lisez, on va lire comment Jacob, on a une idée de ce qu'il y a dans son cœur. Genèse 28, voilà, il vient d'avoir un songe, il vient de voir Dieu qui lui dit, écoute, je suis avec toi, je te bénirai, tout ça. Mais le matin, quand il se réveille, donc au verset 18, il se réveille, et de bon matin, et au verset 20, Jacob fait un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, et que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est une prière comme beaucoup de gens prient. C'est si Dieu me garde, si Dieu m'en soigne, si je réussis, si tout va bien, quand je serai vieux, je croirai en lui. Sa prière, il n'y a personne pour écouter, donc il n'est pas là pour plaire à quelqu'un. C'est vraiment ce qu'il y a dans son cœur. Après que Dieu lui parle, Dieu lui révèle quelque chose, il dit « je te garderai, je te ramènerai, tu n'as rien à craindre », eh bien c'est comme ça qu'il parle. Vous vous rendez compte? Mais c'est l'état, et ça c'est avec quoi Dieu doit travailler. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne sont pas forcément meilleurs, hein, mais... Après une vingtaine d'années là-bas chez son oncle, un trompeur qui travaille avec un trompeur, éventuellement ils ne peuvent pas vivre toujours ensemble. Éventuellement Jacob doit partir. Hein, il s'est fait. Et alors il doit partir, mais c'est sûr que Ésaü, son frère, il est toujours vivant. Et Jacob est en train de retourner, et là, au chapitre 32, il y a une expérience qui se passe. Vous savez, c'est chacun de nous, dans notre vie, il y a un moment où on est confronté à nous-mêmes et confronté à Dieu. Et donc, au chapitre 32, verset 24, Jacob doit traverser ce petit fleuve, ce ruisseau, hein, cette rivière, le Jabbok. Et Jacob demeura, donc tout le monde est traversé, tous les troupeaux, tous les épouses et tout ça. Et Jacob reste seul de son côté et il demeure seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas, point, aller que tu ne m'aies béni. Parce que ça, il se rend compte. Au début, il se bat avec lui, croit que c'est un homme. Mais avant la fin de la nuit, avant l'aurore, il se rend compte que ce n'est pas un homme. Il se rend compte que c'est plus qu'un homme. Et alors là, maintenant, ce n'est plus une question de se battre avec lui. Maintenant, il dit, bénis-moi. Et alors, Jacob dit, il lui dit, quel est ton nom? Il répond, c'est l'ange, c'est-à-dire cet homme qui est un ange, ou certainement l'ange de l'Éternel, lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu ton nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Donc quelque part, il y a un point. Il y a un point dans notre vie, pour chacun d'entre nous, même s'il est le petit-fils d'Abraham, ça ne change rien du tout. Quelque part, il avait besoin d'avoir un cœur transformé. Et il y a une nuit là où il lutte, et souvent ça arrive, hein, on passe des heures là devant le Seigneur et on lutte avec lui. Et bien sûr, c'est toujours le Seigneur qui gagne. Hein, mais c'est bien quand il gagne, parce qu'on est meilleur. On se dit un moins droit peut-être, mais humble, on est mieux que fier. Et après... Bon, c'est pas parce que là, il y a quelque chose qui a réglé, hein, c'est que c'est pas un jour, j'ai rencontré le Seigneur, et puis on a mis une chose en règle, bon, maintenant c'est bon pour là. Non, 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 il y a du travail à faire encore. Et donc Jacob arrive à Bethel, chapitre 35, Et verset 1 à 4, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel à Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Donc Bethel, c'est en fait c'est l'endroit où il a eu le rêve. Hein, c'est l'endroit qu'il a appelé Bethel, et là il revient à cet endroit. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et au verset 4, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les enfouit sous un térébinthe, un arbre, qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Donc, il est là. Oui, il y avait eu cette rencontre, mais après, il faut finir. Il dit, tu vas arriver à Bethel, tu vas rencontrer, Bethel veut dire la maison de Dieu, tu vas venir là, et Jacob il dit, ah non, il faut que je règle tout maintenant. Et il a fait ramasser toutes les divinités, toutes les statuettes, tout ce qui ne correspondait pas, et tout le monde s'est changé de vêtements. C'est le début d'une nouvelle vie. Et c'est vraiment à partir de là que vraiment on a un autre Jacob. Il se comporte autrement. On disait ça de Joseph, n'est-ce pas? Qu'il y a un moment dans sa vie, on voit un tournant. Et il faut qu'à un moment dans chacune de nos vies, il y ait un moment où il y a un tournant, où on commence à... Il n'y a que Dieu et personne d'autre. C'est plus ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Jacob est mort. C'est dans la fin de Genèse. Il est mort. Il a vu venir sa mort. Et il a été recueilli auprès des siens. Et voilà, il est mort rassasié de jours. Et puis on a appris Joseph, on arrive à Joseph, donc. Joseph n'était pas l'aîné, mais il va avoir le statut de aîné. Il va devenir le fils qui porte la promesse pour Jacob. Donc Dieu prend pas toujours l'aîné. Les coutumes, c'est l'aîné, mais Isaac n'était pas l'aîné, c'était Ismaël qui était l'aîné. Après, chez Isaac, il y avait deux. C'était normalement Ésaü qui était l'aîné, mais c'est Jacob qui a la bénédiction. Et dans la maison de Jacob, c'était pas Joseph, mais c'est Joseph qui aura la double part. Et il y aura deux tribus, puisque ces deux enfants vont être reconnus comme les fils de Jacob. La naissance de Joseph, eh bien, elle se fait dans la difficulté aussi. Genèse chapitre 30, sa mère Rachel est en fait stérile. Et elle était l'épouse que Jacob aimait, mais elle est stérile. Et donc au verset 22, donc déjà, il y a eu... Verset 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Et elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, il a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Elle en aura un autre, Benjamin, et puis elle mourra durant l'accouchement. Mais Jacob, donc Joseph est la réponse à une prière, à un miracle. Elle était stérile, Dieu la rend féconde. Vous connaissez l'histoire, on l'a déjà vu, il est vendu par ses frères, normalement, donc si c'est lui qui doit, dans l'esprit de Dieu, c'est lui qui doit être celui qui transmet la bénédiction, eh bien pourquoi est-ce que Dieu l'a laissé vendre et pas renvoyer en Égypte? Et encore, on dit, c'est encore le plan de Dieu qui va tomber à l'eau. Je ne sais pas si vous avez compté combien de fois il y a des choses qui arrivent, et ça je n'ai pas tout nommé, combien de fois il y a des choses qui auraient pu tout annuler. Et il y en a bien d'autres, j'en ai sauté pas mal. Mais, on arrive, Dieu, Joseph, quelque part, il se passe quelque chose, entre le moment où il quitte ses frères et le moment qu'il arrive en Égypte, il y a quelque chose, il commence à faire confiance à Dieu. Bon, il se souvient du songe, et dit, Dieu voulait me dire quelque chose, et puis il commence à faire confiance à Dieu. Et donc, bien sûr, nous, nous voyons comment, déjà chez Potiphar, Dieu le bénit, Dieu est avec lui. Hein, et puis après, dans la prison, Dieu est avec lui, dans le chapitre 41. Ensuite, il arrive dans le palais de Pharaon. Et il y a eu cinq années d'abondance. Ensuite, il y a la famine qui s'engage. Il voit venir ses frères et tout d'un coup, il dit « Ah, je comprends maintenant pourquoi je suis là. » Et il dit « Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé. » Vous voyez ? En fait, les malheurs, ce que paraissait être des malheurs aux hommes, était le plan de Dieu qui se réalisait. Et puis on arrive à la mort de Joseph et lisons dans Genèse chapitre 50. Donc Genèse 50 et je lis à partir du verset 22. Donc Jacob est mort et il reste Joseph. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Il dit, voilà, Jacob, ils l'ont ramené, ils l'ont enterré dans la caverne de Macpéla, là où étaient et Abraham, et Sarah, et Isaac, et Rebecca, et Léa, et puis Jacob. Mais Joseph, il dit, non, Vous gardez mon corps avec vous, les Égyptiens ils savent comment embaumer, ça se conservera. Et puis après, quand vous montez, vous l'emmenez avec moi. Comme ça, la présence de mon cercueil vous rappellera, ce sera un rappel que Dieu vous ramènera un jour. Et la dernière fois qu'on a été en Israël, on a visité la tombe de Joseph. Elle est toujours là, à Ramallah. Donc, Et Joseph dit, Dieu vous ramènera. Pourquoi ? Parce que Dieu avait un plan. Et ce plan se réalise. On pouvait le voir. Genèse chapitre 15. Regardez ce que Dieu avait dit à Abraham tout au début. Genèse chapitre 15. Et versets 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Ouais. Finalement, les choses se sont passées comme il a dit. Dieu est un Dieu qui est capable, dans sa préscience, de voir ce qui va se passer. Il sait comment les gens vont se comporter, ils sont libres de se comporter, mais sachant comment ils vont se comporter, il peut faire des projets et il fait son plan. Et il respecte le fait qu'il a créé l'homme libre arbitre et en même temps, il démontre sa capacité de pouvoir réaliser ses plans. La délivrance, eh bien, se fait. Exode chapitre 6, verset 6, c'est avec Moïse. Exode 6, verset 6, quand les enfants d'Israël sortent. Donc il dit, c'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et à grand jugement. Et donc après, il y aura les plaies. Et après, pas seulement que ces pharaons seront contents de les voir partir, une fois que le pays sera ruiné. Et en partant, ils vont demander aux Égyptiens, ils disent, donnez-nous de ce que vous avez, et ils vont leur donner tout, mais finalement, ils recevront tout leur salaire. C'est rare où les esclaves sont libérés, et on leur paye tout ce qu'on leur devait. Mais vous savez, Dieu fait bien les choses. Et ils avaient tout quoi construire leur tabernacle et tout ça, et vivre pendant 40 ans dans le désert. Parce que 40 ans dans le désert, hein, il n'y avait pas de fruits ni rien du tout, hein, il fallait nourrir tout ce monde. Et connaissez les Juifs, et ils font du commerce. Hein. Et certainement qu'il y avait des marchands, il y avait de la marchandise, tout ça, et ils avaient, avec tout ce qui sont sortis de l'Égypte, ils avaient de quoi acheter. Pendant 40 ans, ils pouvaient vivre avec ce qu'ils ont reçu, plus faire le tabernacle, plus, et tout. Tout était pourvu. Vous savez, Dieu fait bien les choses. Peut-être qu'on est comme Sarah, on rit dans l'incrédulité, mais le Seigneur dit, viens à la foi. Les choses se passeront comme je te dis. Deutéronome 26, alors ça c'est 40 ans après être sorti de l'Égypte. Donc Deutéronome, Moïse, avant de mourir, va leur rappeler comment les choses se sont passées. Deutéronome 26 et verset 8. Il dit, et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Et il nous a conduits dans ce lieu. Donc, et il vous conduira dans un pays où coule le lait et le miel. C'est exactement, c'est toujours la même chose. Alors, beaucoup plus tard, hein, donc David arrive beaucoup plus tard dans les psaumes. Donc le psaume 105, je ne sais pas si je vais lire tout le chapitre, mais le psaume 105 finalement, c'est le psalmiste qui reprend tout cela. Il reprend tout ce qu'on a vu ce soir, finalement. Hein, c'est le résumé de tout ce qu'on a dit ce soir. Il montre comment Dieu a agi au travers de chacun, et depuis Abraham jusqu'à la sortie de l'Égypte. Donc le psaume 105. Et il parle des plaies, et il y a le résumé. Le psaume 105, tout est là. C'est le résumé. Et finalement, c'est on voit la fidélité de Dieu. Et le psaume 105, c'était fait pour nous encourager, parce que il dit, vous voyez comment Dieu a fait avec eux. Eh bien, il peut faire pareil avec vous. Hein. S'il a pu faire avec 2 millions... Vous ne croyez pas qu'il peut le faire avec un petit comme moi? Et puis il l'a fait dans des circonstances difficiles. Donc c'est une référence. Hein, ça a été pour les enfants d'Israël, jusqu'à leur exil en Babylone, la sortie de l'Égypte a toujours été une référence. Dieu qui nous a fait sortir, ben, il peut toujours nous pourvoir. Une fois qu'ils ont été en exil en Babylone, après ils se serviront de la sortie de Babylone comme une référence. Eh bien, nous aussi, nous avons peut-être des expériences dans notre vie personnelle avec Dieu qui sont des références. Hein, je peux être dans un moment très difficile, mais je dis oui, mais je me souviens le jour où le Seigneur m'a parlé, il m'a vraiment touché, il m'a montré, il m'a démontré. Moi, je lui fais confiance. Et donc, on a besoin de c'est, dans la vie d'Abraham, c'était des autels. Pour nous, peut-être, ça peut être autre chose. Mais nous avons des points de référence. Et il faut pas les oublier, il faut s'y référer régulièrement, parce que c'est ça qui nous permet de marcher par la foi. Parce que marcher par la foi, ça veut dire qu'il y a des périodes où on ne voit rien, hein, on fait confiance. Et puis après, Actes chapitre 7, c'est Étienne. Étienne qui reprend encore toute cette histoire. Le sermon d'Étienne auprès des Juifs, à son époque, eh ben, il a repris toute cette histoire. Et nous allons y aller parce que justement, on va se retrouver, on va retomber sur les pieds de ce qu'on disait dimanche. Actes chapitre 7. Et donc, verset 36, il dit, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Et regardez le verset suivant, C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Et là, il annonce Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on disait dimanche. Hein. Et donc, Dieu a un plan. Et ce plan, là, Étienne, hein, il part de tout, depuis Abraham jusqu'à Moïse. Et puis après, tout d'un coup, il passe. Il dit, et Moïse a promis un prophète comme lui, Jésus-Christ. Et c'est le plan. Et nous sommes juste à cette période de l'année où nous nous souvenons de la venue de Jésus. En fait, c'est ce plan. C'est le plan de Dieu. C'est ce qui se réalise et on ne peut pas le voir autrement. Donc, le plan de Dieu, Dieu parle à Abraham. Et puis, 600 ans plus tard, eh bien, on sort de l'Égypte. Et puis 40 ans pour arriver dans le désert, dans Canaan, et puis après ça continue jusqu'à ce que Jésus-Christ naisse dans une humble étable. Et même là, il y avait tout pour faire échouer le plan de Dieu. Il y avait des Hérodes qui voulaient le tuer, il y avait toutes sortes de choses. Les conditions de sa naissance n'étaient pas idéales. Hein. Aujourd'hui, on n'accepterait pas que nos enfants naissent de cette manière-là. Mais Dieu a un plan. Et Dieu réalise son plan. Et voilà, tout cela, il dit le plan de salut de Dieu. Et donc Noël, finalement, on est en train de célébrer pas seulement la naissance de Jésus, mais la réalisation d'un plan qui a eu toutes sortes de difficultés, qui a été menacé, qui a failli être détruit combien de fois. Mais Dieu est fidèle. Et s'il a pu... S'il avait fait naître Jésus beaucoup plus tôt, il y aurait eu moins de difficultés. Mais il a laissé passer le temps, il a laissé passer toutes sortes de problèmes pour montrer « Je suis capable, je suis capable. » Il dit maintenant, vous savez que ça fait 2000 ans depuis que Jésus est venu, mais ce n'est pas un problème. 2000 ans avant, ça marchait. 2000 ans après, ça marche toujours. Vous n'avez rien à craindre. Ce que Dieu a promis, il le fera. Prions.